RFI, 4h du matin à Paris, 2h en temps universel. C'est l'heure de votre journal.
Fabrice Le Grillet.
Pas de pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine, plutôt des réunions trilatérales prévues ce vendredi à Istanbul. Mais les différentes parties ne seront pas autour d'une même table. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de ne pas prendre ces discussions au sérieux. Le Kremlin le traite de clown. Le bilan géopolitique et économique de la tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe. Beaucoup de contrats signés, mais les annonces et décisions du président américain auront également des conséquences. On y revient dans un instant. De nouveaux bombardements israéliens ont fait 120 morts ces dernières heures dans la bande de Gaza et l'aide humanitaire reste toujours bloquée. Une ONG soutenue par les États-Unis se dit prête à distribuer cette aide d'ici à la fin du mois. L'ONU annonce qu'elle n'y participera pas. Et puis du football, le FC Barcelone, champion d'Espagne, 28e sacre pour le Barça. À la place des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie qui devaient avoir lieu ce jeudi à Istanbul en Turquie, des réunions tripartites auront lieu ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué à l'agence France Presse une source au ministère turc des Affaires étrangères. La délégation russe affirme attendre les Ukrainiens afin de travailler. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Marine de la Moissonnière.
À la place des pourparlers directs, il y aurait au menu de ce vendredi plusieurs réunions entre les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie d'une part, et d'autre part entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie. On ignore pour l'instant si une réunion à quatre aura lieu, mais ce qui semble clair, c'est que pas grand-chose ne sortira de ces rencontres. Le secrétaire d'État américain l'a admis ce jeudi soir. Les États-Unis n'ont pas de grandes attentes quant à ce qui se passera vendredi, a déclaré Marco Rubio. Il a reconnu que la délégation russe n'était pas au niveau espéré. Vladimir Poutine a envoyé à sa place un conseiller de second plan, preuve, selon Volodymyr Zelensky, que la Russie ne prend pas ses négociations au sérieux. Le président ukrainien, qui lui non plus n'est pas présent à Istanbul, réponse cinglante de la porte-parole de la diplomatie russe, qu'il a traité de clown et de raté. Ambiance tendue donc entre les deux camps qui ne préfigure rien de bon. De toute façon, selon Donald Trump, seul lui peut débloquer la situation. Tant que je n'aurai pas rencontré Vladimir Poutine, il ne se passera rien, a-t-il affirmé. Donald Trump, qui pourrait se rendre ce vendredi en Turquie.
Notez cette réaction ce jeudi soir du Premier ministre britannique Keir Starmer. Vladimir Poutine doit payer le prix de son refus de la paix. Fin de citation. La fin de la tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe. Le président américain pourra rentrer dans son pays et vanter le bilan de son passage dans la région grâce au contrat signé avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Un succès qui se mesure en milliards de dollars. Mais si l'aspect économique était au cœur de cette tournée, les annonces et les décisions de Donald Trump auront également des conséquences géopolitiques, notamment vis-à-vis d'Israël. Loubna Anaki.
Le passage de Donald Trump au Moyen-Orient a sans aucun doute fait grincer des dents côté israélien. Non seulement le président américain a préféré snober son allié et se concentrer sur l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, mais il a également fait des annonces qui ne sont pas forcément les bienvenues en Israël. À commencer par la volonté de Donald Trump de normaliser les relations avec la Syrie. Dans un signe de rupture avec la ligne diplomatique de son prédécesseur, Donald Trump a également signé des dizaines et des dizaines de contrats avec l'Arabie Saoudite sans poser comme condition préalable la normalisation des relations entre le Royaume et Israël. Certains des contrats signés avec le Qatar et les Émirats portent également sur des technologies qu'Israël ne veut pas voir entre les mains de ces pays. Tout cela, plus l'accord signé avec les Houthis du Yémen, les négociations entamées avec l'Iran et l'accord pour la libération de l'otage américain retenu par le Hamas, pointent vers le fait que Donald Trump semble agacé par la politique de Benjamin Netanyahou et la guerre à Gaza, même si, officiellement, la Maison-Blanche assure que les relations entre les deux partenaires sont au beau fixe. Loubna Anaki, New York, RFI.
Par ailleurs, Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord sur le nucléaire. C'est en tout cas ce qu'affirme le président américain. Quatre cycles de discussions sur le nucléaire iranien ont eu lieu ces dernières semaines. L'Iran serait prêt à accepter un accord en échange de la levée immédiate des sanctions. De nouveaux bombardements ces dernières heures dans la bande de Gaza, bombardements israéliens qui ont fait 120 morts et qui ont particulièrement visé le nord et le sud du territoire. Concernant l'aide humanitaire bloquée depuis le 2 mars, une ONG créée et soutenue par les États-Unis se dit prête à distribuer de l'aide à Gaza d'ici la fin du mois. L'ONU annonce qu'elle ne participera pas à cette distribution par cette nouvelle fondation dont les modalités, je cite, ne respectent pas les principes d'impartialité et d'indépendance. Par ailleurs, les Palestiniens ont commémoré dans le monde la Nakba en arabe catastrophe. qui correspond à l'exode de plusieurs centaines de milliers d'entre eux après le début de la première guerre judéo-arabe en 1948. Une manifestation a réuni un millier de personnes à Berlin. Comme d'autres rassemblements pro-palestiniens en Allemagne, les restrictions étaient nombreuses. Ces rassemblements pour le jour de la Nakba avaient été interdits en 2022 et 2023, les autorités craignant des dérapages antisémites. La manifestation d'hier à Berlin s'est terminée par des violences et a été dispersée à Berlin pour RFI. Pascal Thibault.
Comme depuis des mois en Allemagne, toute manifestation pro-palestinienne est précédée avant son début par la lecture d'une longue liste de restrictions sur les slogans, les emblèmes ou les autres références interdites. Depuis novembre 2023, « From the river to the sea » par exemple est considéré par le ministère de l'Intérieur comme un slogan du Hamas. Pour leurs détracteurs, les manifestations pro-palestiniennes sont avant tout l'occasion pour des personnes ou des mouvements extrémistes de dérapage antisémite. Les intéressés, eux, dénoncent la répression dont ils seraient victimes, comme l'explique un orateur depuis un camion sur lequel on pouvait lire hier « Un génocide n'en justifie pas un autre ».
L'Allemagne soutient le génocide contre le peuple palestinien, politiquement, financièrement et par des livraisons d'armes. Nous sommes perçus comme des criminels en Allemagne. Nos manifestations sont réprimées, des activistes sont victimes de violences. Les voix critiques sont réduites au silence.
La manifestation d'hier après-midi s'était réduite à un rassemblement. La police craignait des débordements, mais il a été émaillé, ce rassemblement, par des violences avec une cinquantaine d'interpellations. 5 policiers ont été blessés, l'un d'eux grièvement. Des slogans remettant en cause l'existence d'Israël ont été prononcés. Des militants palestiniens dénoncent l'agressivité de la police. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'Inde et le Pakistan s'accusent mutuellement de ne pas suffisamment contrôler leurs armes nucléaires. Le ministère indien de la Défense estime ainsi que l'arsenal nucléaire pakistanais devrait être placé sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Pakistan a répondu, l'AIEA ferait mieux de s'inquiéter des incidents liés au trafic impliquant du matériel nucléaire et radioactif en Inde. Au-delà de ces accusations, les armées des deux pays se sont parlé et ont décidé de prolonger leur cessez-le-feu jusqu'à dimanche. Le Festival de Cannes, un vibrant hommage rendu ce jeudi à Fatima Hassouna, une photographe gazaoui de 25 ans, tuée par un missile israélien il y a un mois. Sa mort avait bouleversé le monde du cinéma. Elle avait appris la veille que le documentaire qui lui est consacré, Put Your Soul in Your Hand and Walk, Mets ton âme dans ta main et marche, était sélectionné dans une section parallèle du festival. Documentaire signé de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi et qui retrace les échanges entre les deux femmes. Allez, tout autre chose du football. Un nouveau titre de champion d'Espagne pour le FC Barcelone. Un 28e sacre que le club catalan s'est assuré jeudi soir à 2 journées de la fin de la Liga en allant remporter le derby face à l'Espagnol Barcelone 2-0. Il ne peut désormais plus être rejoint par le Real Madrid, 2e et désormais distancé de 7 longueurs. Le Barça champion qui signe ainsi un éclatant retour au plus haut niveau. Éric Mamrut.
En début de saison, c'est le Real Madrid qui était au sommet, champion d'Espagne et champion d'Europe en titre. La Maison Blanche faisait de l'ombre à un Barça bien palichon qui avait dû se contenter d'une maigre Supercoupe d'Espagne la saison précédente. Un Barça dominé et un Barça tourmenté qui avait vu Xavi, l'enfant du club, quitter son poste d'entraîneur avant même la fin de son contrat. Pour lui succéder, c'est Hansi Flick, ancien coach du Bayern Munich et de l'Allemagne, qui avait été choisi. Un entraîneur certes à succès, mais totalement novice en matière de joutes espagnoles. Cela ne l'a pas empêché de débuter par 7 victoires consécutives en Liga. Avec lui, l'équipe Blaugrana a retrouvé son ADN, le jeu de possession et un style très offensif porté par des attaquants hors pair, le redoutable brésilien Vitinha, l'inusable canonnier polonais Robert Lewandowski et la nouvelle pépite Lamine Yamal. À 17 ans, le déjà champion d'Europe espagnol a ajouté une touche de génie au Barça avec des passes magiques et des buts incroyables. Lamine Yamal secondé par d'autres jeunes de talent comme Pedri, Balde, Fermin ou encore Casado, mais aussi par des tauliers comme le gardien Chesney ou l'increvable Jules Koundé. Résultat de ce cocktail gagnant, une 28e couronne de champion d'Espagne, une nouvelle Coupe du Roi, sans oublier 4 classicos survolés face au Real Madrid. Seule la Ligue des Champions aura échappé cette saison à cet irrésistible Barça.
Et oui, le Barça effectivement stoppé en demi-finale de la Ligue des Champions par l'Inter Milan. L'Inter qui, je vous le rappelle, affrontera le PSG en finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 31 mai. Football toujours, la justice ordonne la destitution du président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues. La justice déclare nul et avenu un accord qui l'avait maintenu à son poste en cause un soupçon de falsification de signature.